Jules Janin, Mademoiselle Laurette de Malboissière. Il y avait au siècle passé, en l'an de grâce 1762, une jeune fille de bonne mine, de belle et bonne maison, Mademoiselle Laurette de Malboissière. Encore enfant, son esprit brillait d'une grâce ingénue et déjà savante. Elle apprit de bonne heure le grec et le latin. À 15 ans, l'espagnol et l'italien n'avaient plus de secret pour elle. Elle lisait Shakespeare en anglais et Klopstock en allemand. 3 fois par semaine arrivaient le maître de mathématiques et le maître à danser, le menuet et les équations allant de compagnie. Elle écrivait en vers, elle écrivait en prose. Au Tasse, elle empruntait son Armide, à l'Arioste son Angélique et son Roland, et l'une des premières, elle eut l'honneur d'étudier les premiers tomes de l'histoire naturelle de M. de Buffon. « Génie égal à la nature », disait la statue élevée au jardin du roi par l'ordre de Louis XVI. Ainsi se passait la journée, et le soir venu, la jeune demoiselle allait tour à tour à la Comédie italienne, au Théâtre français, et le lendemain des grandes soirées, c'était merveille d'entendre ce jeune esprit raconter à sa jeune cousine la comédie ou la tragédie nouvelle. « J'étais hier, » dit Laurette à la Comédie italienne, « où j'ai vu la petite Camille jouer le rôle de mère dans Harlequin perdu et retrouvé. » Encore aujourd'hui, dans le vieux château, non loin de Mantes-la-Jolie, vous retrouveriez la trace et le souvenir de Laurette. Il pleut, tout notre monde est à la maison, les hommes jouent au billard, les dames lisent dans le premier salon, et moi je suis resté dans le second à lire et à vous écrire. Ce château est beau, le jardin surtout est délicieux, il y a des eaux magnifiques et de très belles promenades. Les appartements, quoique simples, sont fort nobles. J'ai une petite chambre dont les fenêtres donnent sur le parc. Elle est séparée de celle de ma mère par une antichambre et un cabinet. Je m'amuse assez ici. Nous nous promenons beaucoup. Je me lève quelquefois à 6 heures et je vais réveiller mon père qui loge dans le jardin, dans le corps de logis des bains, pour me promener avec lui. Et cela dure jusqu'à 8 heures, ou bien, quand je me suis fatigué la veille, je me coiffe, je m'habille, je travaille jusqu'à 1 heure et demie. Nous dînons à 2 heures, je reste quelque temps au salon, puis je me retire dans ma chambre jusqu'à l'heure de la promenade qui a lieu ordinairement à 6 heures jusqu'à 9. Et nous soupons à 10 heures. Telle est ma vie. Ainsi disait nos grands-pères sur le bord de l'abîme. On ne parle en ces lieux paisibles que de ballets, de comédies et d'opéras nouveaux. Madame de la Polpelinière a chanté, sur le théâtre de Passy, le rôle d'Orphée. Oh, il ne s'agit pas encore du chevalier Gluck, en présence de la duchesse de Choiseul, de la duchesse de Gramont, du comte de la Marche, de l'ambassadeur d'Espagne. On a sifflé une comédie de Palissot, l'auteur des philosophes, et la chute honteuse de Palissot a fait plaisir à tout le monde. Voici cependant un grand événement entre deux représentations des comédiens d'Italiens, enfants du phare et de l'oisiveté. Les Anglais bombardent Calais, 17 juin 1762. Certes, c'est là ce qui s'appelle une grosse aventure. Eh bien, en ce temps-là, Calais bombardé par les Anglais arrachait tout au plus cette humble réflexion à la jeune Laurette. On ne croit pas que cela leur serve à grand-chose. Et la voilà, sur la même page, racontant l'heureuse aventure arrivée à Madame de Beaufremont lorsqu'elle eut la fantaisie de visiter le château de Bellevue. Elle y fut promenée, jeudi, avec Madame de Montalembert. Le roi y arriva quelque temps après elle et reconnut la livrée de Madame de Beaufremont. « Est-ce que la princesse est ici ?»« Oui, sire. »« Et avec qui est-elle ?» Avec Madame de Montalembert. Leur a-t-on fait voir tous les appartements? Oui, sire. Sont-elles entrées dans les jardins? Ont-elles mangé de mes cerises? Pas encore, sire, on attendait votre majesté. Eh bien, je vais donc me dépêcher bien vite pour qu'elles puissent en manger à leur tour. » Et quand il eut mangé, il dit à Madame Beauchamp-Senec, qui est gouverneur de Bellevue, « Allez bien vite chercher ces dames. » Et pour les laisser libres, il alla à Babiole, une petite maison auprès de là, appartenant à Madame Monsieur de Champcenay. N'est-ce pas là une action de bon prince? Oh, que j'eusse été contente si j'avais été là lorsqu'il est arrivé. Je l'aurais vu, ainsi que ces dames, de bien près, et sans qu'il m'aperçût. Tout cela est très joli, sans doute, mais ce qui gâte un peu ce goûter royal, ce sont les Anglais qui bombardent Calais. 8 jours plus tard, un autre événement très considérable signale la Russie à l'attention publique. En 4 en 5 lignes, la jeune Laurette a raconté cette immense catastrophe. « Eh bien, ma belle petite, l'impératrice de Russie me semble prendre son parti sans balancer longtemps. Son mari, dit-on, voulait la répudier. On prétend même lui faire trancher la tête de plus établir le luthéranisme dans ses états. Mais elle l'a prévenu. Elle l'a fait enfermer lui-même et s'est fait déclarer tsarine. En revanche, on vous dira tout au long comment un bal public vient de s'établir sur la pelouse de la Muette, en concurrence avec le fameux bal de Vincennes. Ce bal de la Muette est charmant, on y danse, on s'y promène, on y va le dimanche. Et un peu plus tard, ce lieu de fête aura donc le Ranelagh. Aujourd'hui, le Ranelagh est une belle suite de petits palais entre 2 jardins. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. C'est la chanson de Madame de Pompadour. Ah, encore une nouvelle importante. On jouait hier Tancrède et le lait à la Comédie Française, et le duc de Bedford était dans une loge. Or, le duc de Bedford venait justement traité pour la paix. À peine si les plus graves événements tiennent autant de place en cette histoire écrite sous l'émotion du moment qu'un serin qui s'envole, un chien perdu ou la mort d'un singe favori. Évidemment, toutes les choses sérieuses étaient au second plan. Tout le monde ignore ou semble ignorer la menace et le danger de leur présente. Ces vastes famines, ces misères sans nom, ces faillites d'argent et d'odeur, Laurette n'en sait rien. Elle vous dira plus volontiers les 7 éclogues de Virgile qu'un seul des épisodes sanglants de la guerre de 7 ans. Innocence est le mot très inattendu de cette idylle en plein 18e siècle. On s'aperçoit à chaque instant que Laurette habite assez loin de la cour. Elle n'en sait que les histoires les plus décentes. Pas un des hommes sages et pas un des femmes qui l'entourent n'ose lui parler des scandales de Versailles. Ses livres favoris se composent des histoires d'Angleterre, de l'histoire des abeilles et des idylles de Cosner, traduites par Diderot, qui ne s'en vendent guère. Un beau jour, quoique quelqu'un lui prête du Gil Blas, et cet enfant, qui lisait Tacite à livre ouvert, ne comprit pas grand-chose au roman de Le Sage. Elle ne vit pas que dans son Gil Blas, le sage avait représenté le caprice et le courant de la vie humaine, et que le lecteur à chaque page pouvait s'écrier « Mais je reconnais mes propres aventures !» On était alors aux dernières heures de Madame de Pompadour. À la même heure, et c'est tant mieux pour elle, notre innocente était occupée également de son serin, de son singe et de Madame de Pompadour. « Mon serin est mort, tout couvert d'abcès. Brûlait mon sein, j'allais beaucoup mieux, il me faisait toutes sortes de caresses. Oh, le voilà mort en même temps que Madame de Pompadour. Elle aimait les livres, c'est le plus beau goût du monde, il n'est pas de passion plus charmante. Elle en parlait à merveille. J'ai acheté ce matin 30 volumes latins et grecs de la bibliothèque des Jésuites. Nouveau motif d'étonnement de rencontrer cette jeune fille attentive à tant de choses. « Aujourd'hui, dit-elle, après avoir lu Locke et Spinoza, fait mon thème espagnol et ma version latine, j'ai pris ma leçon de mathématiques et ma leçon de danse. À 5 heures est arrivé mon petit maître de dessin, qui est resté avec moi 1 heure et quart. Après son départ, j'ai lu 12 chapitres d'Épictète en grec et la dernière partie du Timon d'Athènes de Shakespeare. Le reste de la soirée appartenait au théâtre. On donnait Héraclide et le cocher supposé, et fouette cocher, on rentre au logis, on soupe, et voici le menu de ce repas simple et frugal. Une bonne et franche soupe à la paysanne, sans jus, sans coulis, avec de la laitue, des poireaux et de l'oseille, un petit bouilli de bonne mine, du beurre frais, des raves, des côtelettes bien cuites, sans sauce, une poularde rôtie excellente, une salade délicieuse, une tourte de pigeon, une de frangipane, et des petits pois accommodés à la bourgeoise. Voilà tous les plats qui parurent sur la table. Au dessert, nous eûmes du fromage, à la crème, des échaudés, des confitures, des bonbons et des abricots séchés. Et pour que la faim couronnât l'œuvre, on nous servit du café que j'avais fait moi-même. Le lendemain, elle achète encore un beau dante en maroquin à la vente des jésuites. Le même jour, elle va visiter au Louvre l'atelier de Drouet le fils. Or, nous y avons vu le portrait de Madame de Pompadour, qui est réellement une très belle chose. Elle travaille sur un petit métier. Son attitude est très noble. Sa robe est de perse garnie en dentelle de la plus grande beauté. Oh, son petit chien cherche à monter sur son métier. À la campagne, Laurette habite une belle chambre et la description de son appartement entre deux tourelles sera la bienvenue, après le récit de son dîner. Je suis dans une grande et assez belle chambre. Mon lit est cramoisi brodé en meuble blanc. Sur ma tapisserie sont des chars, des gens montés dessus, des chevaux pomponnés, des curieux aux fenêtres. J'ai pour meuble une commode, une cheminée, une chaise longue, autrefois de damas bleu et blanc, 6 chaises en tapisserie, 2 fauteuils, un crucifix, le portrait du père et de la mère de notre châtelain. J'ai vu sur l'eau et sur le parc. Mais mon cabinet de toilette est délicieux. Il a 2 fenêtres étroites, dont l'une est au nord et donne sur la partie la plus large du fossé, et sur un paysage charmant. Il est meublé en indienne, bleu et blanc, à une cheminée et une petite glace. C'est là que couche ma gouvernante, Mademoiselle Jaillet. Lorsqu'il fallait se mettre au niveau des bonnes gens de la campagne et partager leurs amusements, la belle Laurette était la première à les encourager. Il y avait eu le matin dans notre village un mariage auquel nous avions assisté, et le soir toute la noce était venue danser au château. La mariée n'est point jolie, elle n'a que 2 belles dents et 22 ans. Le marié est fort laid aussi, 35 ans, et n'est point de ce village-ci. J'ai presque toujours dansé avec lui, et mon cousin avec son épouse. Oh, ils viennent encore aujourd'hui pour faire le lendemain. Et pendant que cette aimable enfant s'amuse avec tant de belles grâces innocentes, déjà la mort s'avance. Elle souffre, elle est malade, elle éprouve un je ne sais quoi qui est semblable à l'ennui. Sa jeune amie et confidente, hélas, la voilà qui se marie. Un jeune homme, un certain Lucenac, son cousin, au cœur tendre, à l'esprit frivole, a délaissé la charmante Laurette. Il aime ailleurs. Il va, il vient, on lui pardonne. Zeus, oh, le voilà qui s'échappe encore. Elle pleure, elle rit, elle oublie. Et peu à peu, où cela devait être, au fond de ses rires, on entend le sanglot. L'enfant déjà n'est plus qu'une fille sérieuse, obéissant aux tristesses d'alentour. À peine elle a 19 ans, qu'elle dirait volontiers comme autrefois Valentine de Milan. Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien. C'est qu'en effet, la voilà tout simplement qui se meurt. Il n'y a rien de plus triste et de plus doux que le dernier jour de l'aimable Laurette. Elle met en ordre toutes choses et puis elle dit « Je voudrais voir M. Tronchin. » C'était le médecin à la mode. Il se rendit chez Laurette, et cet homme lassé de tout, le témoin de tous les désespoirs silencieux, de toutes les douleurs muettes et des plus terribles agonies, que contenaient ces temps de désordre et de doute, comme il dut être étonné et charmé de cet enfant résigné et calme et regardant la mort sans pâlir. Toutefois, malgré notre juste et sincère admiration pour cette aimable demoiselle, il nous semble en fin de compte qu'elle eût laissé pour les jeunes filles d'aujourd'hui un plus heureux et plus utile exemple, avec moins de zèle à des études trop nombreuses pour être toutes salutaires, avec plus de modestie et de réserve au milieu des vains bruits de ce monde, emportés par les grands orages. Peut-être on admirait un peu moins Mademoiselle de Malboissière, on l'aimerait davantage. Son portrait serait d'un moins vif éclat, sans doute, et y gagnerait en grâce, en charme et en candeur.